les jardinières.
Bonjour à tous, bienvenue dans les jardinières. Bonjour Sarah.
Bonjour Stéphanie. Il a bravé le froid pour nous rejoindre ce matin. C'est Philippe Détras, horticulteur à Neuchâtel, qui nous fait le plaisir d'être en notre compagnie. Bonjour Philippe.
Bonjour, bonjour. Mais il ne fait pas si froid en bas.
Hein. Ah, déjà, tout de suite, les petits pics, ça commence bien. Mais c'est vrai qu'on a eu quelques semaines de douceur et d'humidité. Mais maintenant, attention, l'hiver, il semble être à nouveau installé dans notre région. Les bourgeons et les petites fleurs des champs, c'est donc pas encore au programme. Pour ce week-end, ça sera plutôt les confettis de carnaval. Pas de clics ni de serpentins pour nos plantes et nos arbres fruitiers, mais plutôt beaucoup d'amour. Philippe Détras, horticulteur à Neuchâtel, est avec nous jusqu'à 8h pour répondre à toutes vos questions, des questions que vous pouvez lui poser en direct.
Et pour ce faire, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Premièrement, vous pouvez nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Et que vous soyez adepte de jardinage ou pas, Philippe s'intéressera à votre cas personnellement. Et si votre voix n'est pas encore assez réveillée pour parler en direct à l'antenne, vous pouvez toujours nous écrire un SMS au 939 en tapant le mot « jardin » en début de message et en laissant un espace avant votre question. Il existe également le formulaire internet sous l'onglet « Émission, questions aux jardinières ». Et dans les deux cas, n'hésitez pas à nous donner un maximum de détails sur votre problème de jardin afin que Philippe Détras trouve toutes les réponses qu'il vous faut.
Eh bien, tout est dit. Les jardinières, c'est parti.
Les jardinières. Sarah et Stéphanie.
Christiane de Vic s'interroge sur la plantation des oignons de tulipes. Elle nous demande si c'est trop tard de les planter à cette période pour avoir des jolies fleurs au printemps. Philippe, qu'en pensez-vous ?
Alors, je dirais que oui. Si c'est des bulbes qui n'ont pas été mis en terre, à mon avis, c'est trop tard. Ça ne veut pas dire que ça ne va rien donner. J'ai eu l'occasion une année de devoir les planter que entre Noël et Nouvel An, alors que ça se fait en automne. Et puis, voilà, ça a donné des toutes petites tulipes. Elles n'avaient pas eu le temps de froid nécessaire pour s'enraciner. Elles s'enracinent à 9 degrés. Ah, donc, elles risquent d'avoir des tulipes, mais pas forcément des belles tulipes.
Des petites tulipes, donc, plutôt.
Voilà.
Alors, à quelle période faudrait les planter, ces oignons, exactement ? Est-ce que ça dépend des styles de fleurs ou bien vraiment c'est tout à la même période ?
Non, ça se plante à partir de septembre-octobre. On peut en tirer ça jusqu'à novembre. En cas de problème de sol, de trop de neige ou de trop froid, on peut repousser un petit peu, mais idéalement, c'est octobre.
Salomé de Cerny nous a écrit « Est-ce qu'un toit végétalisé sur un abri de jardin peut retenir la chaleur ? Peut-on réaliser ce toit soi-même ? Et si oui, comment s'y prendre ?»
Alors là, je vais vous avouer que j'ai aucune connaissance dans les toits végétalisés. Il y a des paysagistes qui sont spécialisés en la matière. Et moi, je pense que ça doit tempérer un petit peu, ça doit... Ouais, mais non, j'ai franchement pas de réponse à vous donner là-dessus, désolé.
En tout cas, ne vous inquiétez pas, Salomé, on reprendra cette question peut-être un autre samedi pour pouvoir vous donner une réponse sur le toit végétalisé.
Pour la Saint-Valentin, cette saison, c'est la semaine prochaine, j'espère que tout le monde a son cadeau, eh bien nous avons Roger de Vaudelincourt qui lui aimerait acheter des fleurs et il se demande quelles fleurs acheter pour qu'elles durent le plus longtemps possible. Qu'est-ce que vous lui conseillez, Philippe ?
Alors là... J'ai eu un magasin de fleurs pendant 25 ans et je dois vous dire que la Saint-Valentin, c'était pas franchement ma tasse de thé. Quelles fleurs doivent durer le plus longtemps ? Bon, alors, il y a des fleurs, par exemple, comme les Alstroemeria ou les œillets. Mais c'est vrai qu'à la Saint-Valentin, la fleur qui est reine, c'est la rose. Mmh. Et puis, la rose rouge. Voilà, donc, c'est... Après, il faut trouver le fleuriste le plus sérieux. En général, ils ont des fournisseurs sérieux. Donc voilà, il faut trouver son fleuriste et puis avoir confiance en lui. Et je pense que c'est la seule solution.
Et donc est-ce que le fait que les fleurs soient peut-être viennent d'une certaine provenance, ça a une incidence sur la durée ?
Alors faut bien se dire que bon, même si c'est une fête sympa, ça reste une fête un peu commerciale les producteurs de fleurs sont pas fous, hein, ils font leurs roses pour des moments bien précis. Donc, en principe, là aussi, ça voyage très, très vite. Ça vient par avion, les fleurs, ça peut venir de l'Équateur, ça peut venir d'Israël, en transitant parfois par la Hollande. Mais ça bouge très, très vite. La chaîne de froid... on ne va pas parler de gel, mais la chaîne de froid, elle doit être maintenue. Donc, en principe, ça se passe bien. Ça se passe bien.
Est-ce que vous avez une astuce pour que les fleurs qui ont été coupées tiennent plus longtemps une fois qu'on les a reçues à la Saint-Valentin ?
Alors, en principe, les fleurs devraient être recoupées immédiatement avant de les mettre dans l'eau, ou voire même sous le robinet, de façon à ce que les cellules n'aient pas du tout le temps de se dessécher, puisque la fleur, elle doit tirer l'eau depuis son vase. Et s'il y a un petit moment de sec, eh bien les cellules qui permettront à l'eau de remonter ne pourront plus le faire. Donc en principe, toujours recouper fraîchement et en biseau les fleurs avant de les mettre dans l'eau.
Et moi j'ai une question. En fait, à chaque fois qu'on achète des bouquets de fleurs, il y a un petit sachet d'engrais, ouais. J'imagine. Alors ça sert à quoi exactement ? Parce qu'on le met un peu naïvement, on ne sait pas trop finalement. Enfin, moi, personnellement.
Alors, j'ai entendu une cliente une fois qui me disait « c'est pour qu'elle fane plus vite
». Pas mal. Pas, on n'espère pas.
Pas du tout. C'est pour nourrir la tige de la fleur. Et puis aussi... Parfois, en principe, c'est aussi pour éviter que l'eau tourne. Donc si l'eau tourne, eh bien, elle va pourrir un petit peu. Donc c'est vraiment utile de mettre ce petit sachet de nutriments et de produits qui empêchent l'eau de tourner.
Carole de Neuchâtel nous a écrit « Comment et quand faut-il tailler un hibiscus en extérieur ?»
Alors, l'hibiscus... probablement hibiscus syriacus qui tient au gel, se taille à peu près comme un pommier, même relativement sévèrement. Donc on peut le faire, on peut le faire maintenant, on peut le faire avant que ça bourgeonne si possible.
Merci Philippe pour tous vos conseils. On rappelle que vous êtes avec nous jusqu'à 8h. Vous pouvez nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Ou vous pouvez aussi nous écrire un SMS au 939 en tapant le mot « jardin » en début de message, puis un espace avant votre question. Il y a aussi le formulaire internet sur notre site.
7h, 8h, les jardinières.
Thérèse a reçu à Noël un pot de calanchoé dont les feuilles avaient été couvertes de paillettes. Alors elle nous dit qu'il y en avait vraiment beaucoup, enfin il y en a toujours vraiment beaucoup, puis elle demande comment les enlever. Elle a essayé de les essuyer à l'eau, mais sans succès. Philippe, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à Thérèse pour ne pas nuire à la plante avec ses multiples paillettes ?
Vous voulez mon vrai avis ?
Ah, on veut votre vrai avis. Voilà, on est sincère dans cette discussion.
Je sais pas comment faire, honnêtement, parce que ces paillettes, c'est absolument pas naturel. Donc, ça a sûrement été projeté sur la plante avec de la colle. Donc, franchement, c'est pas top, quoi. Je sais pas comment l'enlever. Ça arrive aussi en automne avec les bruyères qui sont colorées avec des belles couleurs fluo, absolument pas naturelles. Voilà.
Et si on attend simplement, si les semaines passent, est-ce qu'elle risque de tomber ou bien vraiment ça
non,
risque...
s'il y a de la, si ça a été collé, c'est collé. Hein,
oui, donc voilà, en gros, en fait, grand-chose. Voilà,
est-ce que ça fait vraiment du mal à la plante ou pas forcément ?
Alors, du mal, je ne sais pas, je ne les ai jamais entendus râler, mais... Mais en principe, si une plante a des feuilles vertes qui doivent être exposées à la lumière pour faire de la photosynthèse, dès le moment où on cache ça sous des couleurs, sous des paillettes ou autre petite bêtise, eh bien, la plante ne peut plus faire de la photosynthèse. Donc, elle ne va pas en mourir, mais elle ne va pas croître, elle ne va pas grandir. Elle ne peut plus faire de photosynthèse.
On en voit aussi souvent sur les étoiles de Noël qui finalement sont faites que pour fleurir à Noël. Donc est-ce qu'on peut en déduire peut-être que voilà, ce genre de plantes qui sont sprayées avec des paillettes, c'est fait pour durer quelques temps et puis après voilà.
Voilà, c'est un peu ça. Mais de toute façon, sur les étoiles de Noël, je dirais que c'est un petit peu moins grave parce que l'étoile de Noël n'est pas faite pour fleurir à Noël, elle fleurit naturellement à Noël. Donc elle fleurit en jour court. Donc après la floraison, si on peut s'allonger un petit peu sur le cas de l'étoile de Noël, après la floraison, on peut la rabattre, c'est-à-dire la raccourcir, la tailler un peu. Elle va faire des nouvelles pousses avec des nouvelles feuilles bien vertes, et puis elle va refleurir tout à fait naturellement à partir de l'automne.
J'ai réussi à bouturer 3 oliviers dans le courant 2017 et pour l'instant, ils passent bien l'hiver. Savez-vous quand je peux envisager de la transplanter, Léonard de Bienne ?
Léonard de Bienne, donc Bienne, hauteur de Neuchâtel, j'ai aussi moi-même des oliviers à l'extérieur. Il faudrait quand même attendre la fin des gros risques de gel. Donc gros risques de gel qui sont, on rentre plein dedans. Jusqu'à fin février, en général, c'est là que les plus gros froids risquent d'arriver. Moi, je dirais qu'il faudrait qu'il attende au moins mi-mars, fin mars, pour les planter, si possible dans une situation abritée.
Et les oliviers, si on n'en prend pas extrêmement bien soin, si on n'a pas une connaissance assez pointue justement de ces arbres, est-ce que c'est facile à garder en vie, entre guillemets, dans nos régions ?
Alors, ça dépend de nos régions, justement. Je dirais que...
Oui, c'est vrai qu'il y a une différence entre bord du lac et peut-être la chaux de fond. Voilà,
sur le littoral, il n'y a à peu près aucun souci. C'est une plante extrêmement solide. Ça tient jusqu'à moins 12, peut-être voire même un petit peu plus, mais pas très longtemps. Donc, et puis, on n'a plus ces gros froids sur le littoral. Par contre, c'est vrai, à la chaux de fond, c'est une plante qu'il faut rentrer absolument. Juste pour donner une idée de l'altitude, donc chaux de fond, on est à 1000 mètres. Il faut les rentrer à l'abri du gel, mais ils peuvent geler un petit peu, il n'y a pas de souci, ça supporte le gel.
Si vous avez une question à nous poser, vous n'hésitez pas, 0901 70 20 20, un petit coup de fil, 36 centimes la minute, et Philippe répond à toutes vos interrogations jardinage. Vous pouvez également nous envoyer un SMS au 939 en écrivant le mot jardin, un espace suivi de votre question, comme Megan qui nous a posé la question suivante. Mon collègue est parti à la retraite et nous a laissé 2 orchidées. Alors elles n'ont plus que les racines, il ne reste ni feuilles ni fleurs. Pensez-vous que je puisse les sauver ? Si oui, comment ?
Je dirais que sans feuilles, ça pourrait bien ressembler à une orchidée morte. Donc, je suis un peu désolé, mais ça me paraît difficile.
Donc là, on est vraiment à un stade de non-retour pour ces 2 orchidées. Il faut les jeter.
Probablement.
Est-ce que le fait que les orchidées aient des feuilles, ça me prouve qu'il y a encore un espoir pour qu'elles donnent des fleurs, ou même qu'elles ont des feuilles, tout d'un coup, c'est complètement mort. Voilà, on n'a plus aucun espoir. Ça veut rien dire, le fait qu'elles ont des feuilles.
Bon, pour les orchidées ou pour n'importe quelle autre plante, dès le moment où il y a des feuilles qui sont vertes et qui ont l'air en bonne santé, ça veut dire qu'il y a de la vie à quelque part. Après, il faut qu'elles soient dans des bonnes conditions.
Et les racines des orchidées ? Alors ces orchidées, bien sûr, qui fascinent, hein, chaque semaine, je crois qu'on a des questions sur les orchidées, mais c'est vrai que c'est une fleur très très agréable. Les racines qui poussent en dehors du pot, ça veut dire quoi ? Parce qu'on a un peu l'impression que tant qu'il y a des racines, il y a de l'espoir, mais en fait pas.
Disons que c'est relativement normal parce que les orchidées sont des... je pense qu'on parle toujours de la même orchidée, du Phalaenopsis. Phalaenopsis, c'est une plante qui est épiphyte, donc elle pousse sur des arbres et elle n'est pas censée être dans des pots avec de la terre, etc. Donc on essaye de lui donner un milieu qui est le moins grave pour elle. Donc c'est tout à fait normal que des racines sortent. Elles sont même, ces extrémités de racines, des fois, sont un tout petit peu vertes, et puis elles sont capables de faire, elles aussi, de la photosynthèse. C'est pour ça, d'ailleurs, que les phalaenopsis, ils sont presque toujours vendus avec des pots transparents, de façon à ce que ces racines puissent fonctionner le plus normalement possible.
Au niveau du pot, justement, à quel moment on sait qu'elle est un peu à l'étroit et qu'il faudrait peut-être la transvaser dans un autre pot ?
Alors lorsque c'est bourré de racines, c'est clairement un signe que c'est un petit peu à l'étroit. Maintenant, il ne faut jamais le faire lorsque c'est en bouton ou en fleur. On attend toujours la fin de la floraison, que ce soit pour une orchidée ou autre chose.
Merci Philippe, vous êtes avec nous jusqu'à 8h et vous pouvez, vous qui êtes à la maison, en voiture, où que vous soyez, nous appeler au 0901 70 20 20 pour bénéficier des conseils de Philippe Détra. Vous pouvez aussi nous envoyer un SMS au 939 en tapant le mot jardin en début de message, puis un espace avant votre question. Et il y a aussi le formulaire internet sous l'onglet émission questions aux jardinières.
7h, 8h. Les jardinières. Les jardinières.
Les jardinières, ça continue jusqu'à 8h. On parle jardin et de tout ce qui va avec en compagnie de Philippe Détra, notre horticulteur professionnel. Bienvenue si vous nous rejoignez.
Les jardinières, c'est votre émission. On vous donne la parole si vous avez des questions au sujet de vos arbres fruitiers, de vos plantes d'intérieur, de vos arbustes et même de vos alentours. N'hésitez pas à nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Ainsi, vous aurez l'occasion de discuter directement avec Philippe Détra. On lira également toutes vos questions par SMS. Pour nous envoyer un message, tapez d'abord le mot jardin, un espace, puis votre question et vous nous envoyez le tout au 939. Et sur notre site, vous retrouverez aussi un formulaire à remplir sous l'onglet émission questions jardinières. Si vous choisissez la solution par écrit, n'hésitez pas à fournir le plus de détails possible afin d'obtenir une réponse vraiment complète. Et bien sûr, pour tout complément, vous pouvez toujours appeler le 0901 70 20 20.
On a une question de Bernadette de Seigne-Légier qui nous dit que depuis un mois, son aglaonema, qu'elle adore, hein, elle y perd ses feuilles en grande quantité. Alors en temps normal, elle nous dit qu'en hiver, il perd uniquement quelques feuilles et elle a peur de le dépoter, de le faire mourir. Qu'est-ce qu'elle peut faire, Philippe ?
Voilà, j'ai pas de... Voilà, vous m'entendez ?
Oui, non, on vous entend. Okay,
tip top, voilà. Alors, l'aglaonema, c'est une plante qui est de la même famille que les philodendrons. Et bon, si elle perd des feuilles un petit peu de temps en temps, c'est normal. Perdre beaucoup de feuilles, ça peut signifier deux choses. Soit elle est insuffisamment arrosée, soit elle était trop arrosée. Mmh. Et donc, trop, c'est jamais bon. Hein. Donc après, vous avez les racines qui risquent de pourrir. Et puis forcément, une bonne plante sans racines, voilà, ça se passe pas bien. Quoi. Donc elle va perdre des feuilles aussi, avec les mêmes signes que si elle manquait d'eau. Donc il faut qu'elle se penche sur ce problème. S'il y a trop d'eau, eh bien, c'est probablement des racines qui pourrissent. Après, il n'y a pas grand-chose à faire à ce moment-là. C'est plus facile pour une plante d'avoir un petit peu de soif que d'avoir trop d'eau.
Et dans la famille des aglaonema, qu'est-ce qu'on trouve également dans ce même style de plante ?
Alors, les philodendrons et les philodendrons. Simon, il y a les anthuriums aussi. Les anthuriums, c'est des plantes qu'on achète parfois pour leur inflorescence rouge qui tient vachement longtemps. Il y a les spatiphyllums aussi qui font la même chose avec des fleurs blanches. C'est des plantes vertes à fleurs, voilà. Il y a des philodendrons aussi. Et puis des épipremnomes, c'est des plantes qu'on voit assez facilement en appartement, qui font des longues lianes et puis qu'on voit parfois courir tout autour d'une pièce.
Jean-Marc souhaite planter un sapin dans son jardin, qui est actuellement en pot, mais son jardin est petit, 50 mètres carrés, et est-ce que l'arbre sera néfaste pour les autres plantes qui sont autour de ce sapin, comme des framboisiers ?
Alors le sapin, ben c'est clair, c'est une plante qui peut arriver à une taille assez importante. Donc moi je pense que c'est pas une bonne idée. Déjà parce que dessous le sapin, y a rien qui poussera. Donc et puis 50 mètres carrés, c'est pas franchement beaucoup. Donc faut aller le planter chez le voisin, c'est mieux.
Pas sûr qu'il sera content.
Hein. Non, il y a aussi un petit truc avec les conifères, c'est que les aiguilles amènent énormément d'acidité au sol, donc ça sera certainement pas bon pour tout ce qui voudrait faire pousser sous le sapin plus tard.
Si on a déjà un sapin qui prend trop de place, il y a une limite dans le temps où on peut le déplacer peut-être, ou s'il est trop grand, ça devient compliqué ?
Oh, raisonnablement, une plante devrait 5 ans maximum. Mais il faudrait couper bien les racines avec avec une bêche tout autour. De façon, si la plante elle a eu le temps de s'installer et puis d'envoyer ses racines très loin, dès le moment où vous allez couper des grosses racines, vous allez condamner la plante. Donc 5 ans, je dirais, c'est maximum.
Justement, les arbres, est-ce qu'ils s'adaptent, donc les sapins et tous les autres, est-ce qu'ils s'adaptent à la place qu'ils ont ? Ou justement, les arbres qui auraient besoin de toute façon de beaucoup de place ne vont pas survivre s'ils sont juste un petit carré d'espace ? Ou ils s'adaptent un petit peu comme nous, j'allais dire ?
C'est une question que j'ai... Ouais. Mmh. Est-ce que la plante, donc j'essaie de résumer, est-ce que la plante va s'adapter à un manque de place?
Voilà, c'est exactement ça ma question. Voilà,
alors, dans un pot, oui. Dans un pot, parce que la plante, elle va être plus ou moins bonsaïfiée par le volume du pot. Par contre, en pleine terre, si elle a la possibilité de s'étendre, de pousser, de croître, elle va le faire. Et c'est pas parce qu'il y a... Alors, elle va être empêchée de se développer correctement s'il y a des murs, s'il y a une maison, une façade, ou je sais pas. Non, en principe, la plante, elle a génétiquement, elle a... Si on reprend un sapin, ça vient grand. Voilà, donc,
ça va pas faire un mini sapin si on le place dans un mini endroit.
Vous pouvez avoir un mini sapin dans un pot.
Voilà.
Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qu'on voit qu'un arbre, un sapin peut manquer de place?
Des signes avant-coureurs.
Oui, on voit qu'ils souffrent un petit peu du manque de place.
Ouais, ben vous le verrez, s'ils commencent à avoir des feuilles qui jaunissent parce qu'ils manquent de nutriments, manque de terre, manque d'eau peut-être. Voilà, je dirais que ça c'est les signes, mais sinon il va rien nous dire lui.
On a reçu un SMS de Ludovic de Fontaine-Melon qui nous dit qu'il voudrait mettre en pot un plant de tomate sur son balcon. À partir de quand est-ce qu'il peut le faire?
Alors, à partir de la fin des risques de froid. Donc, Fontaine-Melon, je dirais, faut qu'il attende la foire de Dombresson.
La foire de Dombresson.
La foire de Dombresson. Et c'est pas toujours aussi clair que ça, hein, parce que quelques jours après, il peut encore geler.
C'est quand la foire de Dombresson pour tous les jurassiens comme moi qui n'en savent absolument rien?
C'est une foire qui a lieu, j'y suis jamais allé moi-même, mais je sais qu'elle existe autour du 20 mai à peu près. Donc sur Neuchâtel, on démarre la vente des tomates autour du 10 mai. Mmh. Et puis dans le Val-de-Ru, il faudrait en tout cas attendre une bonne dizaine de jours supplémentaires.
On a reçu encore un SMS de Maude qui nous dit « Quels arbres fruitiers peut-on planter aux franches montagnes sans trop de soucis ?» Là, on monte à 1000 mètres d'altitude, arbres fruitiers.
Alors là, je dirais qu'il faut qu'elle s'approche du pépiniériste le plus proche, qui pourra lui donner de meilleurs conseils que moi. Ça, c'est vraiment un autre job. La pépinière, bon, j'ai quelques connaissances, mais y a des variétés qui seront plus à même de donner des fruits en altitude que certaines autres variétés. D'ailleurs, votre correspondant aussi, Olivier Ribaud, est pépiniériste, donc il va pouvoir répondre ça très facilement.
Eh bien, Maude, vous savez quoi, quand il y aura Olivier Ribaud avec nous, on va reprendre cette question pour vous et on va y répondre plus en détail. On a reçu également un formulaire, je vous rappelle, vous pouvez les trouver sur Internet, sur notre page Questions aux jardinières. Et c'est un formulaire de Kylian qui nous demande la chose suivante. Il a un bonsaï à la maison et il a comme une couche de moisissure blanche sur la terre. À quoi est-ce que c'est dû ?
Couche de moisissure blanche sur la terre. Sur un bonsaï, ça me paraît vraiment étrange parce que le bonsaï, on ne doit pas lui donner beaucoup d'eau. Ils sont d'ailleurs dans des contenants qui sont souvent trop petits. C'est pour ça qu'ils poussent un petit peu moins fort qu'un arbre normal. Donc moisissure blanche, là honnêtement, je ne vois pas parce que ça ne devrait pas arriver ça.
Donc là, petit... Petite hésitation, donc peut-être là aussi qu'il s'approche directement de quelqu'un professionnel et puis a amené carrément son bonsaï.
Où habite ce monsieur ?
À Montsevelier. Donc dans le Val d'Herbie, c'est à aller.
Ok, donc moi je connais un spécialiste qui est à Oran, c'est M. Kissling, qui est un bon spécialiste des bonsaïs. Peut-être qu'il faudrait qu'il l'appelle.
D'accord, donc peut-être qu'on va reprendre contact avec vous, Kylian, qui nous avez écrit ce formulaire, et on va vous donner les coordonnées. Qu'est-ce que vous en dites, Philippe? On va lui donner directement les coordonnées de ce spécialiste du bonsaï. Vous êtes avec nous jusqu'à 8h, Philippe Détraille. Il y a plusieurs moyens pour vous qui nous écoutez de nous poser vos questions. Et Sarah, vous allez nous dire tout ça.
Vous les avez presque tous testés, le SMS, le formulaire. Il y en a un que vous n'avez pas encore fait ce matin. C'est le numéro de téléphone au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Donc n'hésitez pas. Et pour nous envoyer un SMS, vous tapez le mot jardin en début de message, puis un espace avant votre question. Vous envoyez le tout au 939. Et le formulaire internet, vous le trouvez sous l'onglet émission questions aux jardinières.
Les jardinières.
Marcel de Beuvet a des questions pour vous, Philippe Détrat, autour des arbres fruitiers nains. Alors déjà, quelle serait la différence entre les arbres fruitiers et les arbres fruitiers nains, à part la taille que l'on devine ?
Alors, c'est des fruitiers qui ont été créés pour les gens qui ont principalement pas beaucoup de place sur un balcon, par exemple. Donc, c'est des fruitiers qui sont destinés à être en pot plus qu'en pleine terre. En pleine terre, ça n'a pas franchement de sens, puisque en pleine terre, on a en principe un peu plus de place. Maintenant, c'est vrai, on pourrait faire imaginer une petite alignée de petits fruitiers nains en pleine terre, mais c'est bien des nains. Donc, ils ne viennent pas très grands. Moi, j'en ai un sur mon balcon. Je l'ai depuis 5-6 ans. Et il fait 1,50 m, 2 m, pas plus. Et ça pousse très lentement.
Est-ce qu'il faut les tailler, du coup, ou il n'y a pas besoin, vu qu'ils restent petits ?
Alors, en principe, il n'y a besoin d'aucune taille. Ils poussent lentement, ils font des tout petits rameaux de rien du tout, mais des beaux fruits.
Et quels autres soins ils auraient peut-être besoin spécifiquement ? Est-ce qu'il y a un ancrage spécifique pour les arbres fruitiers nains ?
Non, pour les arbres fruitiers, oui, mais pas forcément les nains. Donc, ils vont, comme ils sont nains, ils ont besoin d'un petit peu moins manger que les autres, c'est tout. Ça, c'est la seule différence.
Et les arbres fruitiers nains, ils donnent beaucoup de fruits ?
Alors, il faut.
Ou ils sont en rapport avec leur taille ?
Alors, moi, le pommier que j'ai en pot sur ma terrasse, il fait 1,50 m. Il a eu porté jusqu'à une bonne vingtaine de très belles pommes.
Ah, après, ouais, quand même.
Ouais, ouais. Non, mais c'est assez étrange comme truc. Quoi. Ça fait des fruits tout à fait normaux, mais sur des plantes qui restent un petit peu naines. Voilà.
Et nous avons une question encore concernant les fruits. Ça concerne les kiwis à présent. C'est un auditeur qui a un kiwi de 7-8 ans dans son jardin et qui aimerait le déplacer. Est-ce que c'est faisable ou le changer de place va nuire au kiwi ?
Alors, si on reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, moi, après 5 ans, je ne le ferai pas. Mais s'il veut absolument le faire parce qu'il a d'autres projets, ben, il va faire prendre quelques risques à son kiwi. Ça, c'est sûr, quoi. Parce que le kiwi... ça fait des belles racines aussi. Quand on voit que le kiwi fait des branches de jusqu'à 5, 6, 7 mètres de long par année, et on peut s'imaginer qu'il y a à peu près le même faisceau racinaire. C'est peut-être pas aussi important, mais je pense qu'il va faire prendre des risques à cette plante.
Puis-je utiliser du marc de café comme engrais pour la vigne ? Gérard de la Neuville vous demande cela, Philippe Détrat.
Je sais pas. Je sais pas le marc de café, ce qu'il contient exactement. Donc là, dans le coût du marc de café, je peux pas vous répondre. Je peux chercher, mais.
Parce que c'est vrai que c'est un engrais qu'on entend parfois. Moi, personnellement, j'en ai entendu du bien et du mal, hein, du marc de café. C'est vrai que peut-être que ça dépend aussi de où il provient.
Très probablement, il y a sûrement, bah, comme toutes les plantes, il y a des plantes qui ont reçu des produits phytosanitaires, donc on ne sait pas ce que contient ce marc de café. Moi, je ne connais pas le contenu du marc de café, je suis désolé.
Et pour la vigne, quel genre d'engrais on peut utiliser ?
Oh là là, vous avez envie de me piéger aujourd'hui. Alors, il y a des engrais, moi je dirais... Je suis vraiment un néophyte en vigne, c'est un métier à part. Moi, je dirais qu'un engrais pour petits fruits me semble plus approprié, vu que les raisins, c'est des petits fruits.
Et puis, concernant la vigne, donc c'est vrai que vous avez déjà bouturé de la vigne, par exemple. Vous, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez ? Parce qu'on avait une question, ça fait déjà quelques temps, d'une personne qui nous avait posé la question par rapport à sa vigne. Elle aimerait bouturer un plant de vigne, mais elle ne sait pas comment faire et la manière de procéder.
Alors, je ne l'ai jamais fait. Si je devais le faire, je pense que je ferais plutôt un marcottage, c'est-à-dire je prendrais... une branche que je coucherai au sol en l'enfouissant un petit peu dans la terre et puis je l'oublierai pendant une année. Et probablement que ça va faire des racines. C'est comme ça que je procéderai, mais en étant un parfait néophyte en vignes.
Merci Philippe. Claudette de Boudry se demande, est-ce qu'on peut planter du jasmin dans nos régions?
Alors il y a jasmin et jasmin.
Alors,
c'est quoi nos régions?
Boudry.
Boudry, ok. Donc à mon avis, non. J'ai moi-même une petite collection de jasmin, mais c'est tout des jasmins, ça vient tout du sud. Ça vient tout du sud, donc on n'a pas du tout le même climat. À mon avis, c'est une plante que, enfin, chez moi, je les rentre. Hein, je les rentre en hiver et je les ressortirai lorsqu'il n'y a plus de risque de gel. Maintenant, il y a une plante qui fleurit jaune, qui est arbustive et qu'on pourrait, et qui va très bien dehors et qui est en fleur maintenant d'ailleurs. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle le jasmin d'hiver.
On arrive gentiment au terme de notre émission. Philippe Détra, une petite dernière. Comme d'habitude, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire au jardin en ce moment. Est-ce qu'il y a quelque chose à ne pas oublier le 10 février?
Eh bien, je dirais un petit peu comme les dernières foires. Pailler éventuellement les plantes un petit peu délicates, puisque les gros froids sont devant nous. Hein. S'ils viennent, ils sont devant nous, donc il faudrait pailler, c'est-à-dire amener de la paille au pied des plantes les plus délicates, mais les plantes arbustives. On peut aussi les buter en ramenant la terre autour du tronc, de façon à les protéger s'il y a des gros froids. Sinon, attendre, se reposer un petit peu, puis se remettre en forme.
Mais c'est pas si mal, hein. Après, il y aura tellement de travail à faire, en tout cas. Philippe Détra, merci de nous avoir aidé à répondre à toutes les questions jardinage des auditeurs. À bientôt, belle journée.
Merci, à vous aussi.
Les jardinières s'en vont pour aujourd'hui. On revient la semaine prochaine pour prendre soin de vos jardins.
Des jardins qui ont besoin de vous, c'est pour ça qu'on est là entre 7h et 8h tous les samedis. Évidemment, si une question vous passe par la tête durant la semaine, vous pouvez nous la poser par SMS au 939 ou par formulaire sur notre site. Vos questions seront traitées en priorité la semaine prochaine. Bon week-end et à la semaine prochaine.
Et pas de folie pendant carnaval.
7h, 8h, les jardinières.